おかしいおかしい、ふるかび。
Bonsoir, trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, Étienne Tshisekedi a confirmé lundi dernier la participation de l'UDPS aux élections de 2011. Constat amer du nouveau procureur général de la République en visite lundi dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa, 60% des détenus sont en situation irrégulière. Et enfin, négociations en cours entre le gouvernement et l'entreprise Tenke Fungurume Mining sur la révision du contrat qui n'accorde à la Jetamine que 17,5% des parts. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Bélard Mouy, il est journaliste indépendant. Christian Kibassou, il est journaliste et chroniqueur politique à Couleur Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Albert Mafolo, il est journaliste à la radio catholique et qui quitte au Bandung. La participation de l'UDPS aux élections de 2011, les détenus en situation irrégulière à la prison centrale de Makala et les négociations entre le gouvernement et l'entreprise Tenke Fungurume Mining constituent les sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. Comment les différents journaux de Kinshasa ont traité ces sujets? Les détails dans cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Concernant les sujets sélectionnés pour cette revue de la presse, la prospérité titre, bataille électorale en 2011, Étienne Tshisekedi dans la course. Le leader de l'UDPS confirme que son parti sera aux élections de 2011. Parlant du même sujet, le palmarès annonce que Étienne Tshisekedi a reconnu qu'aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus meilleures que les années antérieures, ce qui l'a amené à postuler pour les présidentielles 2011. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la visite du procureur général de la République au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison Makala. À ce sujet, le quotidien L'Avenir qualifie de trop les 60% des détenus irréguliers dans cette prison. Notre confrère constate que certains pensionnaires de cette prison n'ont aucun dossier constitué et qui sont là depuis 5 ans sans être interrogés par un juge. C'est ce que qualifie la référence plus d'absence de coordination entre le CPRK et les cours des tribunaux. Terminons cette revue de la presse avec la révision des contrats miniers, car à quelques jours de l'expiration du délai accordé à l'entreprise Tenke Fungurume Mining d'augmenter les parts de la Gécamine, cette entreprise minière dit qu'elle ne révisera pas sa première convention signée entre elle et la RDC en 2005. Forum des As pense qu'au-delà de toute affirmation, Tenke Fungurume Mining investit dans l'avenir de la RDC. Ce journal note que cette entreprise TFM est aujourd'hui le plus grand investissement du pays et un des projets d'exploitation minière les plus intéressants du monde.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Christian Kibassou, vous êtes journaliste et chroniqueur politique à Couleur Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et avez-vous quelque chose à dire par rapport à la manière dont la presse a traité l'actualité de cette semaine?
Non, notre confrère Kachak a bien brossé les choses. Et il a épinglé les dossiers qui fâchent ces derniers moments. On parle d'Étienne Tshisekedi qui revient en pompe. Il a parlé des Tenke Fungurume. La question mérite d'être posée parce que ça, Tenke Fungurume, c'est une entreprise qui contribue un tout petit peu à la relance de notre économie. Je pense que ça, le travail est bien fait.
Bélard Mouy, vous êtes journaliste indépendant. Pensez-vous que la presse a réservé une place de choix à cette affaire des Tenke Fungurume? Juste un petit commentaire, hein, on n'est pas encore rentré dans le détail.
Bien, écoutez, une place de choix, ce n'est pas vraiment le cas de le dire. Disons que les journaux en ont parlé de temps à autre, mais vous savez, nous avons quand même cette particularité que la plupart des journaux congolais ne sont pas très au fait de la chose économique. Hein. Lorsqu'il s'agit de parler chiffres, les journalistes esquivent un peu, tout petit peu, donc vous voyez. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup vu ça en manchette dans la plupart des journaux qui font, quoi.
Oui, Albert Mafolo, vous êtes journaliste à la radio catholique de Kikwit au Bandundu. Votre avis par rapport au travail de la presse de cette semaine?
Oui, je suis, je rappelle, de Radio Tonisa du diocèse de Kikwite. C'est bien bon qu'on ait choisi des sujets intéressants pour nos publics, notamment le retour de ce grand parti politique qui a été non partant en 2006 et qui vient de réintégrer le processus. C'est que nous félicitons. Et puis la question des détenus de CPRK et en situation irrégulière qui intéresse aussi la population, d'autant que ça a trait avec le droit de l'homme, et le respect des institutions et puis des procédures de détention des personnes. Ça pourra éclairer nos auditeurs. Et les contrats miniers que vous voyez là, qui sont aussi un problème du fait que nous sommes devant un problème de richesse du sous-sol congolais, et puis on devait mettre beaucoup de sérieux. C'est intéressant, on va y aborder.
Merci, nous allons passer à notre premier thème de ce soir. Étienne Tshisekedi a confirmé lundi dernier la participation de l'IDPS aux élections de 2011. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social confirme la participation de cette partie aux élections de 2011. Il encourage les Congolais à s'enrôler massivement. Il déclare que l'idéal de l'IDPS, c'est la conquête du pouvoir et c'est dit bien portant. Écoutons Étienne Tshisekedi au micro de Giorgio Kamujova.
Je pense que les élections, il faut que tout le monde y participe. C'est pour ça que j'ai demandé au secrétaire général du parti d'engager le parti dans cette voie pour qu'il y ait élections, que tout le monde puisse se faire enrôler. Je confirme que l'IDPS sera bien aux élections de 2011.
Pour la plupart des Congolais, l'IDPS semble être un souvenir politique. Il y a des luttes d'ambition terribles au sein de l'IDPS. Il y a l'aile Beltika, l'aile Mutanda, l'aile Mubake. Est-ce que c'est dans ces conditions vraiment que vous pouvez aller aux élections?
Et c'est très dommage, je sais que vous dites ça, c'est très dommage que ça puisse se faire ainsi, de cette manière-là. De toute manière, très bientôt, je vais pouvoir prendre des décisions pour ramener tout le monde à l'unité, à l'union, à la cohésion autour de moi, pour que nous puissions préparer notre premier congrès et mettre le parti en ordre de bataille.
Bélard Mouilly, Étienne Tshisekedi a parlé. Et comment vous réagissez face à cette déclaration d'Étienne Tshisekedi?
Très sincèrement, écoutez, d'abord, j'ai du mal à reconnaître vraiment la voix de Tshisekedi. Ce n'est pas vraiment la voix de Tshisekedi habituelle.
Ah bon?
Franchement, écoutez, je suis quand même très bien l'homme. Si vraiment c'est bien Tshisekedi qui a répondu à votre journaliste, parce que c'était au téléphone, je crois bien.
Oui, c'était au téléphone.
C'est vraiment quelqu'un qui doit être très diminué sur le plan de la santé, parce que sa voix, on sent vraiment que ce n'est pas, il n'était pas vraiment au meilleur de sa forme. Il est parti malade, il est certainement encore convalescent, donc il est clair que c'est pas encore quelqu'un de vraiment encore totalement rétabli. À écouter vraiment cette voix, cette façon de parler, ce n'est pas encore ça que nous avons connu. Donc ça, c'est sur le plan de la forme. Alors, sur le plan du fond, je dirais que tous les Congolais, en tout cas la majorité des Congolais de bonne foi, reconnaissent M. Tshisekedi le plus grand héros du combat démocratique dans ce pays. À main nue, sans grands moyens, il a réussi à combattre avec ténacité deux dictatures de suite, celle de Mobutu et celle de M. Laurent Désiré Kabila. Avec une telle détermination, il a mis vraiment sa vie en péril. Il a vu ses biens pillés, saccagés parfois même. Les membres de sa propre famille ont connu certaines atteintes. Mais aujourd'hui, il est vraiment très regrettable de voir que ce combat n'a vraiment abouti à pas grand-chose, presque à rien jusqu'à présent. Et son parti s'est retrouvé dans une telle confusion, et lui-même a joué un très grand rôle dans cette confusion qui s'est vue au niveau de son parti.
Albert Mapolo, pensez-vous, comme le dit, vient de le dire Bélard Mouilly, que Tshisekedi a joué un rôle dans cette confusion qui s'est vue dans son parti, l'UDPS?
Je l'ai suivi, je suis heureux d'entendre Bélard déclarer ce qu'il a dit là, mais ma réaction était d'abord des félicitations du leader de l'UDPS, l'un des grands partis du pays, et lui-même l'une des figures emblématiques de l'histoire politique du pays. Il a toujours prôné la non-violence dans ses discours, et la non-exclusion ou auto-exclusion, c'est intégrer le processus, c'est salutaire. Mais Tshisekedi Wamulumba, si je ne m'abuse pas, est né en 1933. Aujourd'hui, il doit être dans la fourchette de 76 ans. À cet âge, le corps commence déjà à se fatiguer. Ainsi, il doit saisir de son temps pour au moins servir valablement la nation, bien sûr. Pas dans le sens de lutte politique sans issue, mais une lutte objective et conséquente, laquelle doit être sanctionnée par une conquête du pouvoir dans le respect du juge démocratique. Voilà ce que je peux dire, je sais.
Oui, Christian Tibassou, pourquoi, à votre avis, Tshisekedi a attendu ces moments pour pouvoir parler?
Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Après 2006, aujourd'hui, Tshisekedi se déclare candidat pour 2011.
Il ne s'est pas déclaré candidat, il a dit que l'IDPS va participer aux élections de 2011.
C'est bien dit, mais il faudra savoir qu'est-ce qui a changé par rapport à la démarche qu'avait entrepris l'IDPS à l'époque. Moi, je pense que rien n'a changé. Là, je rejoins ce que Bélard vient de dire, vient d'affirmer. C'est une sorte de combat pour rien. Après avoir mené une lutte acharnée contre les dictateurs, et plus d'une fois, l'UDPS, ses rébifs, refuse de participer. Quand on attend l'UDPS, l'UDPS n'est toujours pas là. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. L'IDPS, quand on parle de Tshisekedi, on voit celui qui a combattu Mobutu. Et quand on parle de Tshisekedi, on voit celui qui a organisé les villes mortes et qui ont favorisé même l'organisation de la conférence souveraine. Aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont évolué. La génération aujourd'hui n'a pas cette volonté de suivre, n'est-ce pas, les idéaux tels que Tshisekedi pourrait. À l'époque, on pouvait dire quelque chose et tout était paralysé. Ce n'est plus la même chose.
Vous pensez qu'il n'a plus de place dans les paysages politiques du Congo?
2006, ça pouvait être intéressant si Tshisekedi devait se présenter. Mais il a fait quelque chose que moi, personnellement, je regrettais. À l'époque, je me rappelle que Vital Kamerhe, qui était secrétaire général du PPRD, s'était même déplacé à l'IMETE pour demander à ce qu'il y ait pu participer aux élections. Mais ce n'était pas seule chose, en fait. Donc, moi, je regrette, jusqu'aujourd'hui, je regrette. L'IDPS a fait un pas en or à Palou. Aujourd'hui, le Palou serait trouve là où il est, c'est parce que l'UDPS n'avait pas participé aux élections. C'est bien que Étienne Tshisekedi puisse déclarer que l'UDPS va participer aux élections, mais ça ne sera pas le même résultat qu'on pouvait avoir en 2006.
Bélard Mouilly, êtes-vous du même avis que Christian Tibassou?
Oui, totalement, je suis du même avis que lui, mais j'aimerais aussi donner quelques petites précisions, parce que j'ai dit tout à l'heure que M. Tshisekedi a quand même joué un rôle important dans la confusion qu'il y a au niveau de son parti actuellement. Vous savez, il a été la personne qui a pris la décision de suspendre le fonctionnement des bureaux et du secrétariat national et du comité national et de confier, en violation totale des statuts de son parti, de confier le pouvoir exécutif au comité organisateur du congrès, ce qui n'a aucun sens. Mubaki a dû protester, mais a continué à le respecter en tant que président. Puis subitement, le 17 janvier de cette année, depuis l'Europe, depuis Bruxelles, il s'est trouvé, il fait une lettre et dit non, désormais, je réhabilite le comité national, donc Mubaki est réhabilité, il décide, je réhabilite aussi le secrétaire national, mais là, il ne remet pas Rémi Massamba à son poste, il nomme un secrétaire général issu du Kassai, alors que selon les mœurs de l'UDPS, donc la tradition de l'UDPS, c'est que le président a été du centre, le président du comité national de l'Est, le secrétaire général doit être de l'Ouest, forcément, il nomme Mutanda qui est du centre comme lui, et ça fera encore une cacophonie. Les gens qui préparaient le congrès s'obstinent à préparer leur congrès, ils disent que la lettre ne contient pas une signature manuscrite, c'est juste un sceau. La confusion s'installe, et ça, c'est par la faute de société de lui-même.
Et l'élitisme qu'il avait aussi gardé, fanatique.
Alors, il y a deux partis, deux groupes s'opposent au sein du même parti, depuis janvier. C'est en septembre, fin septembre, qu'il décide de parler, c'est quand même extrêmement grave. Et il appelle les gens à s'enrôler, alors qu'il y a déjà de provinces entières qui traditionnellement sont acquises à sa cause, qui ont presque fini l'enrôlement, comme Kinshasa et le Kassai occidental. C'est vraiment parmi ses chefs les plus importants. Il a attendu que l'enrôlement soit fini dans ces provinces-là pour demander aux gens de s'enrôler. Il y a un tel flou
on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe. Apparemment, il est otage de certains membres de sa famille. Et c'est vraiment dommage qu'un combat aussi prestigieux, aussi formidable, finisse comme ça à Nouri-Boudin, alors que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui ont conduit ce genre de combat. Abdoulaye Ouad au Sénégal. Aujourd'hui, je suis tenté, malheureusement, malgré toute l'admiration que j'ai pour cet homme, que je trouve parmi les plus grands hommes de l'histoire politique du Congo, je suis tenté de dire comme Crispin, ça me semble assez tard. Vous savez, moi j'ai eu la chance en 2006 de faire le tour du Congo pendant la campagne électorale. Aussi de qui vous étiez à Kamituga, Bukavu, Uvira, Mwenga, Shabunda, au nord qui vous étiez à Kichanga, Kiroliroué, Nyanzale, Rutshuru, Kiwanja, Beni Butembo, partout. Je posais des questions aux gens, si vous connaissez l'UDPS. Aux gens de la génération 18 ans, 19, 20 ans, me disaient, l'UDPS, non, on ne connaît pas. Les aînés disaient, oui, c'est parce qu'il avait fait fureur ici dans le temps, mais il a cessé d'exister. À Bounia, tout le monde me dit, c'est Thomas Lubanga qui l'animait quand Mbutu était présent ici, depuis qu'il est entré dans la rébellion, depuis qu'il a cessé d'exister totalement ici. Donc, pendant la transition, comme il n'était pas dans les institutions, ils avaient le temps, vraiment, de pouvoir travailler le terrain. Ils ne l'ont pas fait. Et ce qui est de lui-même, et ses colistés qui étaient Massamba et Moubaké, ils n'ont rien fait, Moubaké et de Mwenga. Allez à Mwenga, on ne connaît même pas l'UDPS aujourd'hui, il parle à la deuxième génération. Aujourd'hui, c'est difficile qu'ils puissent le faire dans les 18 mois qui restent pour le 2011.
Albert Mafolo, le quotidien La Tempête des Tropiques du 9 septembre dernier, titre sur sa manchette, je cite, Étienne Tshisekedi tire les choses au clair. Pensez-vous que le leader de l'UDPS a effectivement tiré les choses au clair? On sait qu'il n'a rien dit au sujet des élections locales et pensez-vous qu'il a tiré les choses au clair?
Moi, je dis un peu pas du tout, parce que je pense que la première chose, si je peux revenir en arrière, et si quelqu'un qui s'était dit aurait voulu faire, ça serait d'abord de réconcilier toutes les factions enregistrées au sein de son parti à planir des divergences et définir une politique dynamique pour faire face à ce processus qu'ils viennent d'embrasser en mi-chemin. Vous avez suivi, je reconnais quand même des façons qui existent. Aujourd'hui, l'UDPS se présente comme un monstre à multiples têtes. C'est un parti qui a plusieurs factions. Il y a Alexis Moutanda, Bekika, Moubaké, Valentin. Et puis, comment tu sais qu'il va se prendre pour faire face à la poursuite du processus électoral qui vient de déclarer l'intégration tout à l'heure? Donc, vous voyez Alexis Moutanda, lui fait l'enrôlement et aborde les choses dans la même ligne que le président national, en fatalité de secrétaire général du parti. Il y a Bekika qui tient à l'entérinement des mesures et résolutions de son congrès organisé dernièrement à Rigini, rejeté par le comité national. Il y a Valentin Moubaké, par contre, qui refuse de se contredire, qui n'est pas d'accord avec l'enrôlement organisé en vue de la révision du fichier électoral actuel, estimant que c'est la continuité du processus qu'ils avaient boycotté en 2006. C'est vrai qu'il y reste le chef du parti et devrait d'abord concilier ses esprits. Donc ce qui n'est pas clairement défini, en s'intégrant, est-ce qu'il n'accepte pas d'abord de commencer à ces processus qu'ils avaient promis d'attendre, de commencer à organiser les élections à la base avant les présidentielles? Alors, si maintenant, parce que ce sont les élections qui vont consolider les élections locales, urbaines, et puis s'ils acceptent de s'intégrer et qu'ils trouvent que c'est ça le respect du principe, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer les jeux de 2011, est-ce qu'en jouant les jeux de 2011 là, est-ce que réellement ils seront sûrs que tous les membres de leur parti vont s'enrôler? Donc c'est à ce niveau que moi je dis, et bien, si c'était dit, doit éviter la politique d'un pied dedans et un pied dehors, si je dois le dire. C'est-à-dire, chaque fois qu'il trouve que les paramètres ne lui permettent pas de s'en sortir, il prend l'auto-exclusion. Alors, lui permettant pas de se dire, il prend l'auto-exclusion et je pense qu'il devrait s'assumer et refuser de porter le poids de la misère des Congolais en développant des mythes autour de lui. Il doit s'assumer. Donc, à ce niveau-là, Tshisekedi devrait être clair, dit, par exemple, voilà, nous intégrons le processus parce que maintenant, ce sont les élections locales que nous devons organiser. Nous posons nos jalons, nous organisons nos bases. Alors, et après, à 2011, nous pouvons voir comment il fait la tête. Donc, c'est à lui de jouer la vraie carte et surtout d'être plus sincère avec sa philosophie politique et avec l'avenir de la nation, si je dois le dire, parce que lui en tant que leader, il a une faction de la population derrière lui, et puis ce que lui décide, il y a des gens qui égotent comme lui-même le propose.
Oui, Crispin Sibassou, au-delà de tout ça, quel pourrait être l'impact des propos de Tshisekedi sur les paysages politiques de la RDC?
On pense que si Tshisekedi pouvait se trouver ici à Kinshasa, si cette déclaration était faite en public, ça aurait dû entraîner, changer beaucoup de choses. Parce que déjà, il y a El Belchika qui déclare ne pas reconnaître la voix d'Étienne Tshisekedi, comme venait de le dire Bellar Mbouyi. Tshisekedi, la voix qu'on retrouve, on ne reconnaît pas. Mouba qui confirme que c'est la voix d'Étienne Tshisekedi à Mounoumba. Écoutez, moi je pense que sur le plan politique, ça n'apporte absolument rien, parce que ça ne change pas beaucoup de choses, parce que la marche du pays est en train de s'effectuer normalement. Etienne Tshisekedi a parlé, mais c'est pour l'UDPS. Et il y a encore, qui sont les membres de l'UDPS aujourd'hui? Qui sont les membres de l'UDPS? Il n'y a pas longtemps que cette année, le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a fait le déplacement de Bakongo pour voir quel était réellement l'impact de leur parti sur le terrain. Je pense que ce n'était pas du tout favorable. Ce n'est pas l'UDPS qu'on a connu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des partis politiques qui se créent, l'homme politique comprend des choses et les jeunes sont en train d'adhérer dans d'autres partis politiques parce que comprenant les enjeux. Écoutez, avant les élections, on ne pouvait pas comprendre facilement que le Palou pouvait occuper aujourd'hui le poste de Premier ministre. Les jeux démocratiques permettant à ce que les gens puissent se retrouver, eh bien, chacun veut se trouver leader dans son coin. Donc c'est difficile d'avoir le monopole comme l'UDPS l'avait dans les temps. Moi je pense qu'ils ont pu passer leur chance par des discours qui n'ont toujours pas reflété la réalité. Vous vous enrôlez pour 2011 et pas pour les élections locales. À quoi ça sert?
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Constat amer du nouveau procureur général de la République en visite lundi dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa. 60% des détenus sont en situation irrégulière. Le nouveau procureur général de la République, Florine Numbi, fait un constat selon lequel 60% des cas de détention sont irrégulières. Cela est dû à l'absence de coordination entre la prison centrale de Makala et les cours des tribunaux. Il a promis de restaurer notamment les inspections judiciaires mensuelles de la prison ainsi que la coordination entre les offices et la prison pour régulariser les dossiers des détenus. Comment se présente la situation dans les provinces? La réponse avec Kéline Couté.
Pour l'ONG International Prison Fellowship, la situation des détentions illégales est pire dans les provinces qu'au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Du côté de la section droits de l'homme de la MONUC, il y a surpopulation carcérale par rapport à la capacité d'accueil réelle et actuelle des établissements pénitentiaires. C'est le constat à quelques exceptions près des rapports de visite effectués par cette section de la MONUC dans plusieurs prisons de la RDC. Les causes de cette surpopulation dans les établissements pénitentiaires à travers les pays sont divers. D'abord, l'utilisation excessive de la détention préventive exagérément prolongée, ajoutant à cela la faible capacité d'accueil des établissements pénitentiaires aggravée par la présence de nombreux détenus.
Bellar Mbouyi, sur 4000 détenus à la prison de Makala, 60%, c'est-à-dire 2400, sont en situation irrégulière. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Comment peut-on expliquer cela?
C'est un scandale. C'est extrêmement grave. Ça participe d'une violation grave des droits de l'homme. Vous jetez des gens dans les prisons comme ça, sans que parfois qu'il n'y ait même de simples dossiers constitués. C'est incroyable. Moi, j'en reste franchement bouche bée là. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment c'est très mauvais ça.
Albert Mafolo, comment la situation se présente à Kikwite où vous travaillez, Kikwite au Bandundu?
Je pense que la situation est générale. Bellar Mbouyi vient de le dire là que c'est scandaleux. Mais moi, je confie ça aussi quelque part à l'ignorance de la population elle-même, hein, par manque aussi de temps de sensibilisation, de savoir que lorsqu'on vous arrête, lorsque les causes pour lesquelles on vous a arrêté ne sont pas des causes que peut juger un OPJ ou bien un magistrat, disons le tribunal de paix ou le tribunal pénal. Donc à ce niveau-là, les gens ignorent aussi et par peur, parce que les autres utilisent la police, la force, il y a l'arme, et puis les gens, ils sont qu'on vit comme des brebis hein, dans des prisons. Ici à Kikwit, par exemple, moi je peux vous dire qu'il y a la prison centrale de Kikwit ici, dans Kikwit Plateau, qui presque est délabrée. Il y a des cellules sans fenêtres, sans éponge, sans nattes, et on a des dizaines. Vous avez des gens dans des cellules enfermées qui vivent l'obscurité même quand il fait le jour. Donc, et parmi ces gens-là, assurément, il y a des gens qui n'ont jamais été jugés, mais parce qu'ils ont, ils attendent leur jugement, ils sont incarcérés.
Ce qui va sous, Albert Mafolo dit que cette situation est due à l'ignorance de la population.
Non, activer la population, moi je pense que c'est faux parce que d'abord le magistrat, quand ils arrêtent ceux qui sont accusés, est-ce qu'ils traitent proprement les dossiers? Papi Tarki, qui a quelques mois, le chef de l'État, a eu à mettre de l'ordre dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bévues, il y a le clientélisme. Quand on a fait le constat qu'il y a autant de personnes qui sont arrêtées sans raison, le problème c'est après le constat, qu'est-ce qui va devenir? Peut-être que le constat restera constat. Après, ça reste lettre morte, on ne fait absolument rien. Plus d'une personne sont passées par la prison centrale, on a fait ces constats et après, on reste dans le bureau climatisé, on oublie.
Le procureur général de la République promet de restaurer les instructions judiciaires masseuses de la prison. Cela ne constitue pas une des solutions à ce problème.
Il faudra lier. Le discours, c'est bon. Les discours, je suis d'accord avec ce que le président a dit, mais dis-moi, moi je pense que c'est dans la réalisation de ce qu'on a énoncé qui m'intéresse, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a fait ces constats dans nos prisons. Ça, même sur le plan international, RFI en a parlé, d'autres chaînes en ont parlé, même les images, mais on ne fait absolument rien, on fait comme si rien n'était dit, rien n'était fait, on reste là entre les constater, il y a une autre personne qui va passer. Moi je pense que ce sont des actions plus purement propagandistes. Après, rien ne sera fait. Et les petits citoyens vont continuer à croupir dans les prisons et pourtant ils n'ont rien fait.
Bélan Bouilly, êtes-vous pessimiste comme Crispin Tibassou?
Oui, assez, oui, tout à fait, exactement.
Pourquoi?
Pour une première raison simple, est-ce que le procureur général de la République est-il le gestionnaire de prison au Congo? Non. Dans aucun pays du monde, c'est pas le procureur général de la République qui est le gestionnaire des prisons. Pas du tout.
Mais lorsqu'il fait la ronde des prisons, ce n'est pas dans ses compétences.
Bah écoutez, il fait partie des autorités judiciaires du pays, mais ce n'est pas lui le gestionnaire des prisons. À titre d'exemple, il n'a aucun ordre à donner à un directeur de prison. Pas du tout. Il faut me suivre la hiérarchie administrative telle que celle qu'il se présente. La tutelle des prisons, c'est le ministre de la Justice. Nous avons un ministre de la Justice qui est un brillant avocat et qui aime beaucoup faire ses opérations tape à l'œil. Il a eu à visiter déjà la prison de Makala. Il a pu faire le même constat. Qu'est-ce qui a suivi par la suite? Rien. Nous constatons que dans nos cités ici, il y a quand même une certaine tradition qui s'instaure. Il suffit que vous accusez quelqu'un à la police le garde pendant 48 heures, dit bon voilà nous, passé 48 heures, on ne peut plus garder quelqu'un, c'est la détention provisoire, eh bien, nous attendons quand le véhicule de la prison centrale passe, on le met dedans, eh bien, pauvre qu'on amène à Makala. C'est très fréquent, on devrait combattre le mal à la base.
Non, quel est le préalable en fait pour restaurer un bon fonctionnement de la justice dans nos prisons?
Voilà, c'est toute la justice du pays qu'il faut repenser, en gros, c'est ça. Il faut repenser toute la justice, en gros. Il ne faut pas que lorsque vous avez un problème avec quelqu'un plus nanti, plus puissant que vous, on vous mette tout droit en prison directement avant qu'on ait commencé à instruire votre dossier. C'est le genre de choses qu'il faut combattre, entre autres. Tout l'appareil judiciaire du pays qu'il faut arriver à repenser de fond en comble.
Et que le travail qui est en cours avec la réforme dans la magistrature.
Non, pas du tout. La réforme de la magistrature, on cherche à y mettre un plan de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'a absolument rien à voir avec le fonctionnement de la justice telle qu'elle devrait se faire. C'est vrai, on peut arriver à garder certaines personnes en prison. Donc, il s'agit peut-être de criminels très dangereux dont, par exemple, on craint la fuite. Ça peut se comprendre. Mais le procureur constate qu'il a vu en prison plein de gens dont le dossier n'est même pas encore constitué. Des pauvres citoyens, des gens du menu qui prétendent, si vous me passez l'expression.
Il y aurait même un enfant de 11 ans, il y aurait une fille de 8 ans qui est incarcérée pour 8 safous.
Vous imaginez, c'est ça le ministre dont je parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment de m'avoir complété. Et c'est vraiment l'appareil judiciaire du fait qu'il faut revoir de fond en comble, et non pas ces opérations tape à l'œil pour faire se matuger, la propagande politique, comme l'a dit tout à fait Crispin, avec raison d'ailleurs.
Oui, apparemment, Crispin a quelque chose à ajouter.
J'allais dire, parlant des remettre de l'ordre dans ce secteur, j'ai eu à parler avec un des présidents du syndicat de magistrats qui nous a fait voir que ce n'était pas logique. C'est qu'on a fait dire dans les décrets du chef de l'État pour la régie, pour la magistrature, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout correctes par le fait que les gens se sont donné l'occasion de faire le coup bas, de réaliser ce qu'on dit en d'autres termes, octroi de la quasi-numette, dans des règlements des comptes. Et le chef de l'État a été induit en erreur pour ces messieurs-là, que j'étais les noms. Écoutez, moi je pense que la problématique, la solution, c'est d'abord que les magistrats soient très bien payés. Par exemple, il n'y a pas longtemps, nous avons diffusé sur nos ondes, les syndicats de magistrats réclamaient le paiement des mois d'août, des salaires. Comment est-ce qu'un magistrat qui n'est pas payé peut bien rendre son verdict? Écoutez, si M. Bellard est plus gentil que moi, j'irai en prison, je vais croupir là-bas, et j'irai même si c'est un enfant de 11 ans, de 8 ans, il vivra ma cala parce que c'est lui qui est en face de lui, c'est un anti, c'est un monsieur qui, c'est un bon an.
Albert Marcolo.
Merci. Mais je voudrais d'abord revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure là, parce que Bellard semble dire que l'ignorance de la population ne profite pas à ceux qui rendent la justice. Moi, je pense que quand il parle de penser la justice, c'est important. C'est important qu'on puisse sensibiliser aussi les populations. Il est difficile de donner l'exemple par soi-même, mais je veux vous dire qu'ici à Tucuit, par exemple, la mise en place des juges et magistrats qui a été rendue publique par le chef de l'État, vous en avez parlé et les journaux en ont écrit. Mais lorsque les radios communautaires des milieux ont essayé de relier ça à travers les zones en donnant les numéros de l'ordonnance et puis les mutations opérées au sein, donc il y a eu des interpellations. Il y a un journaliste, je ne voudrais pas citer le nom, qui a été objet d'un mandat de prise de corps d'amener sans invitation, convocation. Mais s'il n'était pas informé, et puis même le mandat-là ne portait même pas le nom de l'officier du ministère public qui l'a signé, un mandat qui n'était même pas enregistré au niveau du secrétariat du tribunal des grandes instances d'Équipe ici. Alors, heureusement que le procureur partant à l'époque, Kim Bolo, qui a été là-bas, a joué la prudence pour dire que c'est une irrégularité et a demandé aux journalistes que c'était à prendre comme un cas d'incident de parcours. Mais quand même, nos corporations avaient réagi. Donc, quelque part, la population, même à Kinshasa, posait la question, est-ce qu'ils savent que devant tel problème, nous devons nous référer à quelle instance? Et nous sommes justifiables à quel niveau par rapport à tel dossier? Mais par rapport à la question que vous venez de poser tout à l'heure, ça c'est vrai. Bon, tout à l'heure on vous a dit comment le juge, mais aussi quelque part, quelles sont les mesures sécuritaires qu'on met en place pour protéger quelqu'un qui est accusé? Parce que généralement quand on arrête quelqu'un, on l'amène manu militarum, il est devant le juge. C'est comme si tout ce que le juge dit et tout ce qu'on lui propose pour avoir sa liberté, par peur de ne pas être en prison, la population, donc disons, l'inculpé est censé accepter parfois peut-être corrompre. Donc pour la plupart, quand vous trouvez des gens coupés en prison, soit ils n'ont pas, s'ils n'ont jamais été jugés, c'est-à-dire ils n'ont personne pour corrompre à leur niveau, ils n'ont pas assez de moyens, ou alors ils n'ont personne pour parler à leur nom, ou des plus surcroît, leur nom de famille ou son nom propre n'a aucune référence dans l'appareil judiciaire, dans l'administration politique et dans l'environnement économique, je peux aussi dire. C'est-à-dire que tout cela entre en compte, qu'il faut penser nécessairement. Alors, je dis tout à l'heure, là, le chef d'État venait de prendre une panoplie de mesures et nous sommes à une phase de tolérance zéro. Veuillons voir si ça ne va pas rester un slogan. Mais sinon, c'est un peu tout ce que vous êtes en train de dire là. Donc, il y a nécessité d'informer la population, de sensibiliser la population et aussi de penser la magistrature. Donc, à ce niveau-là, il y a aussi la question du social du juge.
Merci.
Parce que c'est une personne placée dans des conditions infrahumaines, il profite de son bâton de commandement pour essayer de lui voter. Donc voilà aussi un problème, si je peux contribuer dans ce manière.
Oui, merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Négociation en cours entre le gouvernement et l'entreprise Tinke Fungurume Mining sur la révision du contrat qui n'accorde à la Jukamine que 17,5% des parts. Le gouvernement demande à Tinke Fungurume Mining d'augmenter les parts de la Jukamine de 17,5% à 20 ou 25%, ainsi qu'une prime de 30 millions de dollars sur les réserves. Mais TFM dit qu'elle ne révisera pas sa convention signée entre lui et la RDC. En principe, c'est le dimanche 4 octobre prochain que nous devons avoir les conclusions de ces négociations. Écoutons la chargée des communications de Tinke Fungurume, Mme Margaret Kabamba, au micro de Georges Kamujova.
Nous continuons à travailler avec le gouvernement pour conclure le processus de la revisitation de notre contrat. Nous pensons que notre contrat est transparent et juste, conforme à la loi congolaise, et doit s'exécuter sans modification. Mais ce processus de revisitation n'a nullement affecté notre calendrier et l'évolution de nos opérations actuelles. Mais encore une fois, notre convention est transparente et juste et a été négociée conformément à la loi congolaise.
Pourquoi fondez-vous vos espoirs?
Parce que nous avons une convention minière que nous avons signée avec le gouvernement qui est transparente, qui a été acceptée par le gouvernement et c'est ça le fondement de nos opérations.
Et si jamais le gouvernement s'est décidé de résilier le contrat?
Nous avons des dispositions dans notre convention qui sont prévues pour résoudre ce problème.
Bernard Bouilly, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Ces négociations ont-elles les chances d'aboutir?
Bien, écoutez, elles peuvent aboutir, tout comme elles peuvent ne pas aboutir. Il faut vraiment comprendre que c'est que Fungurume a investi beaucoup d'argent au Congo. Je crois,
on parle de
2 milliards de dollars. Oui. Tout ça ne peut pas aller en mur comme ça. Il faut bien qu'il y ait, qu'on puisse trouver une solution. Un modus vivendi quelque part, ça va de soi. Mais le problème le plus important, c'est celui-ci. Comment voulez-vous qu'on puisse trouver crédible un pays, un gouvernement, qui, il n'y a pas encore longtemps, a signé en âme et conscience des conventions minières avec des sociétés, et qui, moins de 4 ans plus tard, leur dit « Non, non, c'était des contrats léonins, nous devons les revisiter ». Ça voudrait dire quoi? Comment voulez-vous que, à l'international, on puisse nous considérer comme étant des gens crédibles? Deuxième chose, je sais, évidemment, que la Jukamine a été totalement cannibalisée. On a vraiment donné des pans entiers, je sais que fut cette grande société congolaise, à des sociétés, mais généralement, c'est là fut l'œuvre, comme l'avait rappelé un rapport de la Banque mondiale en 2007, c'est l'œuvre des membres du sérail présidentiel. C'est des gens qui, eux-mêmes, sont généralement associés dans toutes ces sociétés-là. Que ce soit là-bas ou ici. Et enfin, je vais peut-être terminer par là. Nous sommes en pleine crise internationale. Ça n'a pas encore pris fin. Parce que le secteur minier est très touché par cette crise internationale. Vous savez, au Katanga, il y a de très nombreuses sociétés qui ont fermé carrément boutique. Et c'est mal le moment de pouvoir rentrer en guerre avec celles qui ont quand même eu le courage de rester ouvertes.
Oui, Christian Sivassou, je rappelle que vous êtes journaliste chroniqueur politique à Couleur Télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Le gouvernement n'a-t-il pas raison d'exiger à Tinke Fungurume une révision de son contrat, hein, lorsqu'on sait que certaines ONG, même la communauté internationale, ont toujours demandé au gouvernement de réviser des contrats qualifiés de léonins?
Écoutez-moi, je pars d'abord sur le fait sur la problématique des experts. Quand on négocie un contrat et on a des intérêts égoïstes, et après il y aura des incidents comme ça. Parce que dans notre pays, pour qu'il y ait une signature d'un contrat, on existe des pots de vin. Plus d'une fois, on a entendu dans des ministères, écoutez, pour que je signe ces documents, il faudra que vous payiez autant et je vous facilite la chose. Et aujourd'hui, Tinke Fungurume Mining se retrouve avec les contrats et vous venez pour dire, écoutez, vous révisez pour qu'on change, qu'on revoie les choses.
Mais dans le contexte actuel, est-ce que le gouvernement n'a pas raison de demander à Tinke Fungurume la révision de ce contrat?
Le gouvernement a raison parce que c'est un contrat léonais.
Mais comment est-ce qu'on peut signer un contrat comme ça? Qui a signé? Pourquoi signer un contrat dont vous savez que ça ne pourra pas bénéficier à la République démocratique du Congo? Ça me ramène, excusez-moi, d'impliquer le contrat chinois qui a été révisé. Il fallait attendre, cette pression de la communauté internationale pour qu'on puisse revoir le contrat chinois. Et pourtant, la classe politique congolaise l'avait dit tout haut, il faudra revoir ce contrat. Donc, pour nous les Congolais, c'est l'extérieur qui doit tout nous dicter, même si on a l'intelligence. Moi, je pense que le gouvernement a raison qu'on puisse revoir, mais le mal est parti de loin. Le mal, c'est de pouvoir négocier avec des intérêts égoïstes. Quand les experts sont en face de ceux qui sont investisseurs, ils ne voient que leur ventre. On ne peut pas négocier avec le ventre, on doit négocier avec la tête parce que c'est le pays qui est engagé. Tant que pour Gourmet aujourd'hui, il est en train de déclarer que leur contrat est, n'est-ce pas, transparent. Pourquoi? Parce que c'est inscrit noir sur blanc et signé par les autorités congolaises. Ce qui veut dire la continuité des affaires de l'État. Même si ce n'est pas ce gouvernement qui a signé le contrat avec quelqu'un qui est plus en place, mais la continuité des affaires.
Albert Mafolo, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Tomisa catholique des Kikwito Bandundu. Ce contrat représente environ 2 milliards de dollars américains. S'il est résilié, quelles pourraient être les retombées sur le plan social?
Les retombées ne sont pas mesurables. Vous voyez, avec cette crise économique internationale, les 2 milliards seraient les bienvenus dans le cadre d'investissement dans notre pays. Et vous le savez, nous vivons des conditions de vie difficiles avec les grèves des fonctionnaires et tout ça. Mais au moins, j'ai entendu Crispin Kibasu qui a manqué la ville, que ça donne en même temps un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte, pourquoi? Entendre la dame qui a parlé au nom des 5 forumiers, elle dit, justement, nous continuons à travailler avec le gouvernement pour la négociation du contrat qui doit s'exécuter sans modification. Donc, quelque part, là, ça révolte un peu de sentir que quelque chose qui est jugé honnête, ceux qui viennent nous rendre ces services avec qui nous sommes en partenariat disent que ça va s'exécuter sans négociation. Donc, quelque part, c'est comme si on ne reconnaît pas notre souveraineté, on ne reconnaît pas notre sens d'indépendance aussi de mettre des points de vue sur ce qui n'a pas été bien fait. Mais aussi, pourquoi ça n'a pas été bien fait? Parce que nous avons des experts. C'est là où Christian Kibasu a parlé de la problématique des experts et des intérêts égoïstes qui engagent la nation et qui emprisonnent des générations à venir. Donc, vous voyez, les gens sont allés négocier des choses qui, aujourd'hui, remises sur table, nous rendent ridicules. C'est ridicule à chaque temps. Vous avez vu, on a parlé des contrats chinois. Et l'ambassadeur chinois, si je ne me trompe pas, c'est question de tradition, a dit qu'ils vont revoir le contrat, mais que ce soit pour la dernière fois. C'est quand même ridicule de trouver une nation qui est indépendante, une nation qui a des experts, une nation qui prône l'avenir de son pays, mais qui, chaque fois quand on choisit X ou Y pour telle action, on doit y revenir et à qui doit-on faire confiance? Vous voyez, là, nous tombons à ce que le chef de l'État avait dit, qu'il n'y a pas 15 personnes de confiance. C'est-à-dire les gens qui vont négocier dans le compte de la nation, les gens qui engagent l'État, les gens qui engagent l'avenir du pays, mettent un peu de leur propre compte et ceux qui emprisonnent et ceux qui essayent de barrer la route à un sens du développement harmonieux de cette nation et qui nous enfonce davantage dans des conditions telles qu'on ne saura pas s'en sortir. Donc, ça aura un impact visible, un impact fort sur notre économie et pourquoi pas sur la survie même de cette entreprise, par exemple, de la Gécamine. Ça aura de l'impact. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revoie ces contrats-là, qu'on renégocie, voir un peu avec 2 milliards qu'ils ont mis, quelles sont les dépenses qu'ils ont pu engager, quels sont les moyens qu'ils ont mobilisés, et nous, qu'est-ce que nous disposons, mais pas sacrifier aussi à chaque moment et à chaque temps les intérêts de ceux qui viennent investir chez nous, mais aussi nous devons protéger notre patrimoine et aussi confirmer comme une nation.
Merci.
Donc, c'est un problème important des personnes, un problème important des experts, comme Crispin venait de le dire.
Merci.
Alors, ces experts-là, nous devons les puiser aussi, ce n'est parmi les Congolais. Ceux qui ont négocié ces contrats, j'estime qu'ils sont Congolais, qu'ils ne sont pas des étrangers.
Des larmes mouillées, que proposez-vous pour qu'on aboutisse à une solution qui puisse satisfaire les deux parties? En un mot, parce qu'on a pris assez de temps.
Bien, écoutez, ils sont en négociation, que chacun puisse faire preuve de bonne foi, qu'on puisse voir vraiment la juste mesure des choses. Si vraiment TFM prend conscience, franchement que les intérêts de l'État, donc la Jekamine, ont été vraiment entamés dans cette affaire, qu'ils puissent faire marche arrière. Si par contre le gouvernement constate qu'au regard de la crise internationale, ainsi que de moyens mis en place par TSN, il y a moyen de faire Jekamine à cette hauteur de participation, qu'il le laisse. D'autant plus que ce n'est pas la seule société où la Jekamine est à 17%. Il y a même des sociétés où la Jekamine a moins que ça.
Merci, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Jean-Claude Denciala a été à la technique. Kelly Kunkoute l'a réalisé, assisté de Samuel Kachak. Et devant ce micro, Guy Maté qui vous dit merci et vous souhaite un bon week-end sur Radio Capi.